J'appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait.
Moi, c'est André du Mouvement Locateur Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous choisir à faire des expulsés du Congo-Brazzaville. Continuez à défrayer la chronique. Le Parlement de la RDC recommande au gouvernement de geler les échanges commerciaux entre les deux capitales. Entre-temps, pour se rendre à Brazzaville, à partir du territoire du Congo-Kinshasa, il faut désormais avoir un visa estampillé dans le passeport, comme si on allait à Paris ou à Bruxelles. C'est la décision des autorités du Congo-Brazza. De part et d'autre, on durcit les tons et d'aucuns redoutent des conséquences économiques. Et quelles seraient, à votre avis, les conséquences économiques de ce plaidoyer? Vous aurez la parole et rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 081 890 63 15. Vous avez également la possibilité de réagir en postant vos commentaires sur notre page Facebook. Noëlla Luzitou est à la réalisation, Paul Badianiam à la mise en onde, J.R. Lungembo Cordon est présente ce programme sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio Joël Sikou, économiste et assistant à la faculté de l'économie de l'Université catholique du Congo. Bonjour Joël.
Bonjour J.R.
Voilà, si vous le permettez, on va passer directement au standard pour écouter les réactions des uns des autres par rapport à cette thématique. Et puis on reviendra à vous. Norbert, vous êtes avec nous à Kananga. Bonjour Norbert.
Bonjour J.R. Lungembo. Bonjour auditeurs et auditrices des Radio Capi.
Voilà.
Je voudrais d'entrée déjà rappeler une chose à ceux qui nous écoutent à propos justement de ces expulsions massives de nos frères et sœurs qui étaient de l'autre côté du Congo d'en face. Depuis le début plutôt de ces mouvements J.R., cette situation n'a pas eu d'impact sur le plan commercial pour dire que le commerce s'effectuait comme d'habitude. Ça c'était un point. Autre chose, J.R., avant de donner les conséquences, à mon avis, sur le plan économique, de féliciter d'abord le député Ramazan Ishadari, qui était président de la commission qui s'est rendue de l'autre côté du hasard. Il a produit un très bon rapport, un très très bon rapport, de très bonnes recommandations. Mais notre crainte, c'est que ces recommandations risque de rester une lettre morte aujourd'hui, à part...
Oui, Norbert, nous n'en sommes pas encore là. Le problème aujourd'hui, il y a eu des recommandations. Parmi ces recommandations figure, c'est ce que nous parlons, en tout cas c'est dont nous parlons aujourd'hui, le gel des échanges commerciaux entre les deux capitales. Quelles en seraient les conséquences selon vous?
Mais J.R., le gel par rapport aux échanges intercommerciaux avec les deux capitales, c'est-à-dire le Congo Brazza et Kinshasa, mais c'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent parce que je suis d'accord si on disait par exemple qu'il faut couper court à toute coopération politique, il faut couper court à toute coopération militaire. Mais ça pose un problème. Si vous regardez bien, à part le pain que nous recevons, d'ailleurs, c'est pas même le Congo Brazza qui en fabrique. Mais c'est plutôt, ça transite par le Congo-Brazza.
Oui, il y a pas...
L'Espagne vient de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, d'autres pays africains. Mm-hmm. Et puis ça passe par le Congo-Brazza. Donc le Congo-Brazza, à son tour, vient s'approvisionner en produits agricoles à Kinshasa. Là, vous avez par exemple le maïs, le manioc, l'huile de palme, vous avez les tomates, voire même le ciment. Donc c'est un manque à gagner, d'abord, pour le Congo-Brazza, ça il faut le dire. Et c'est aussi... La RDC risque d'être moins affectuée par le Congo Brazza. Donc ça pose déjà un problème à ce niveau-là. Nous devons en tout cas les dire.
Mais Norbert,
c'est maintenant qu'il y a... Pardon ?
Oui, Norbert, n'oubliez pas qu'à ces jours, bon nombre d'opérateurs économiques préfèrent passer leurs marchandises au niveau de Pointe-Noire, où il y a le port à eau profonde. Parce que chez nous, jusque-là, le projet n'est pas encore effectif.
Exactement, J.R. C'est ça le problème. Parce qu'il faut, autant qu'il faut collaborer, coopérer avec les voisins, pour que les Congolais qui sont au niveau de la capitale se retrouvent avec cette façon de se débrouiller, de nourrir. Moi, alors ça va poser un problème. Moi, à mon avis, plutôt, toutes les recommandations qui ont été faites par la commission s'étaient rendues de l'autre côté du Congo-Brazza. Donc cette décision n'est qu'une partie, n'est qu'un point de ces recommandations. Mmh. Alors qu'il y a
et n'oubliez pas qu'il s'agit tout simplement d'une recommandation. Examiner.
Et là, vous avez noté, il faut dire aussi un mot par rapport à la réciprocité JR. En droit international humanitaire, des principes.
On avait déjà abordé cette question la semaine passée. Je crois qu'on ne peut plus y revenir. Je crois qu'au niveau du rapport, il y a eu plusieurs recommandations. Aujourd'hui, nous abordons une de ces recommandations, c'est-à-dire le gel des échanges commerciaux entre les deux capitales, parce que nous savons que la RDC et le Congo-Brazza sont tous deux membres de la CEAC. Et à ce titre, je crois qu'ils ont adhéré à cette organisation internationale. Et ils ont signé des instruments juridiques qui, au fait, réglementent leur participation, leur adhésion dans cette organisation. Et à ce titre aussi, ils devaient se protéger ou encore organiser le libre échange et aussi la circulation des personnes et de leurs biens. Mais bon, voilà qu'on est arrivé au niveau que les deux parties durcissent le ton, chacun dans son coin. Nous allons voir peut-être avec Omar qui est à Kinshasa, qui a la parole en ce moment. Omar, bonjour.
Bonjour, je suis là, JR, je vous remercie de la parole et je vous salue.
Vous avez la parole, Omar.
Merci beaucoup, JR. Nous sommes tous en train de déplorer cette proposition. Mais je voudrais aborder comme Norbert. Vous savez, JR, on ne peut pas aborder un aspect économique sans faire allusion au droit. Le Parlement congolais a proposé le gel. Oui, c'est vrai que ça génère beaucoup de conséquences sur le plan économique, mais c'est aussi une façon de se faire respecter. Les relations diplomatiques, même les relations internationales économiques dans tout le monde sont régies par la Convention des Vienne de 61. Cette convention oblige à chaque État parti de respecter les normes qu'il a lui-même assignées. Et lorsque ces normes ne sont pas respectées, la même convention oblige à chaque État de prendre des mesures pour se faire respecter. Nous ne sommes pas le premier à le faire. Rappelez-vous que les États-Unis, au moment, ont rompu les relations commerciales avec la RDC parce que les droits de l'homme n'étaient pas respectés. La Chine aujourd'hui a un conflit avec les États-Unis et les relations économiques vont être interrompues parce que les États-Unis ont condamné 5 officiers chinois. Le Luxembourg, qui est un pays qui a une armée de moins 1000 hommes, qui a une superficie très petite, a à un moment grondé la France et interrompu les relations. Sur le plan économique, nous sommes d'accord que cela génère des conséquences graves. Mais sur le plan politique, c'est une façon de se faire respecter. Car la diplomatie ne consiste pas seulement à avoir des ambassades dans notre État, ça consiste aussi à savoir dire non lorsqu'on a subi un fait qui n'a pas été bon. Mais cependant, lorsqu'il faut analyser les conséquences, comme vous l'avez dit, ce gel, à mon avis, va générer beaucoup de conséquences sur le plan commercial. Car nul ne peut ignorer que les deux pays cèdent mutuellement, notamment dans la circulation de biens, en concernant les habits, les produits alimentaires. Alors moi, je pense en ces moments, puisque nous avons tous décelé que ça ne marche plus, puisque les conséquences qui vont générer dans ces conflits sont dramatiques et inhumaines, il faut que les deux États se mettent sur la table et discuter. La vraie diplomatie au monde ne consiste pas seulement à parler un bon français. Ça consiste aussi à savoir discuter avec l'autre, l'appeler. Si nous devons traiter ces problèmes avec beaucoup de sérieux, depuis un certain moment, on doit les dire ou que les relations entre ces deux pays ne marchent pas. Voyez-vous, lors de l'investiture de notre chef de l'État, le chef de l'État en face n'est pas venu. Je ne dis pas qu'il y a un conflit, mais en diplomatie, ça a une signification très fondamentale. Aujourd'hui, on vient nous chasser tout d'un coup. Les phénomènes qu'on critique ne datent pas d'aujourd'hui. Et chaque fois qu'on a toujours des problèmes, des Congolais d'ici qui font là-bas. Mais tout d'un coup, on vous pose des actes et on vous fait comprendre qu'on ne veut plus de vous. Alors, que la sagesse nous recommanderait d'appeler nos interlocuteurs, se mettre autour d'une table. Ça, c'est la première solution. Vu les conséquences que vont générer cet acte de gêne, il faut que l'État congolais Kinshasa et l'État congolais Brazzaville puissent se mettre ensemble pour discuter.
Oui, Omar.
Regardez les vraies causes.
Oui, Omar, avant que vous poursuivez, désormais, pour se rendre à Brazzaville, à partir du territoire du Congo-Kinshasa, il faut avoir un visa estampillé dans le passeport, comme si on allait à Paris ou à Bruxelles. Alors, comment vous jugez cette décision des autorités de Congo-Brazza?
C'est une mesure qui nous paraît apparemment non digne, non censé, mais en diplomatie, ça a un sens. Aujourd'hui, chaque État cherche à s'afficher. Vous savez, JR, la capacité d'un État n'est pas seulement d'ordonner les membres de sa communauté, mais de savoir aussi s'afficher sur le plan international. Moi, à mon avis, c'est vrai que cet acte dans nos relations va froisser un peu nos voyages là-bas, mais c'est une façon de se faire respecter. Chaque État a une police des étrangers. C'est même recommandé. Comment voulez-vous accéder dans un État si vous n'êtes pas régulier? Ce qu'il faut faire en ces moments, peu importe l'acte pris par les Brazzavilles par rapport à l'estampillage, il faut que les deux États se mettent ensemble à discuter, voir quelles sont les causes qui ont pu générer ces conflits. Les deux États qui ont signé beaucoup d'accords, vous l'avez rappelé avec le monsieur Atundu, nous avons beaucoup d'accords, ils doivent savoir respecter les actes qu'ils ont pris. Et des trois, notre pays, l'État congolais, la RDC, doit aussi savoir se responsabiliser. Lorsque le Congo d'enfance décide désormais de s'empiller, c'est parce qu'il veut seulement assainir son secteur d'étrangers. Et qu'est-ce qui nous manque aussi de faire le mien? Nous sommes le seul pays au monde où on peut recevoir n'importe qui. Non, il n'est pas mauvais d'être hospitalier, mais il faut que l'hospitalité puisse respecter les normes requises. Sur le plan économique, nous allons dire que ce gel va générer beaucoup de conséquences. Mais à mon avis, hier, je suis sérieux et logique que ce gel va aussi permettre à Congo d'enfant de nous respecter. Il est temps que nous puissions fumer les calumeux de paix, discuter, se faire respecter. Mais discuter ne veut pas dire montrer ses faiblesses. Discuter veut dire qu'est-ce qui n'a pas tenu, qu'est-ce qu'on peut faire. Et toi, tu as eu des accords avec nous, tu dois respecter. L'autre a posé déjà des estampillages. Nous aussi, désormais, avant d'entrer chez nous, il faut être à notre
avoir un passeport.
Voilà, à mon avis, j'ai ma partition dans cette musique de cet avant-midi et je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir donné votre partition dans cette musique de parole aux auditeurs. 081-890-6315 pour votre participation en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Joël Sikou, vous êtes économiste, vous avez suivi les uns les autres. Aujourd'hui, c'est vrai, nous abordons l'aspect conséquences économiques par rapport à cette situation qui prévaut entre les deux capitales les plus proches du monde. J'ai parlé de Kinshasa et de Brazzaville. Alors aujourd'hui, c'est vrai, le Parlement de la RDC... entre autres recommandations, il a formulé le souci de proposer les gels des échanges commerciaux entre les deux capitales. Et de l'autre côté, les autorités de Congo-Brazza disent que désormais, il faut avoir un visa estampillé dans les passeports, comme si on allait à Paris ou à Bruxelles. Voilà, donc, quelles seraient, en tout cas, à ce jour, à votre avis, les conséquences économiques de ces plaidoyers? Mais j'aimerais bien que vous réagissiez d'abord par rapport à cette première série des auditeurs.
Ok, merci JR pour l'invitation et bonjour aux auditeurs de Radio Okapi. De prime abord, je tiens à signaler à nos auditeurs que les volumes d'échange entre la RDC et le Congo-Brazza est vraiment très infime. Donc, par exemple, pour les importations du Congo-Brazza en provenance de la République démocratique du Congo, ça ne représente que 2% de leurs importations. Et nous-mêmes aussi, même en termes de transit, il y a Norbert qui l'a relevé de Kananga, en termes de transit des produits qui viennent dans la région ouest du Congo, donc la région ouest, nous comprenons Bandundu, Kinshasa et Bakongo, qui transitent par les ports des Pointe-Noire pour arriver à Kinshasa, ne représentent qu'environ 16% de cette région, dans 16% des ressources de cette région, donc de trois provinces que je viens de citer. La RDC, c'est un pays vaste, tout le monde le dit, c'est pratiquement un sous-continent. Donc quand vous voulez étudier l'intégration régionale économique de la RDC, il ne faut pas prendre la RDC comme un tout. Donc les volumes des transactions, les volumes des échanges entre la Zambie et la RDC est de loin, alors de très loin supérieur à ce qu'il y a entre Congo-Brazzaville et Kinshasa. En titre d'illustration, en 2012, c'était évalué déjà à 500 millions de dollars. Et la Zambie, dans sa stratégie de développement du commerce international, la RDC fait partie de ses partenaires privilégiés. Vous avez vu le président tanzanien qui est venu ici. Vous remarquerez qu'ailleurs, les politiciens, quand ils voyagent, ils voyagent avec des hommes économiques, avec des opérateurs économiques. Donc, on privilégie cela. Le Congo, aujourd'hui, c'est un grand marché pour beaucoup de partenaires commerciaux internationaux. Donc, dans ce sens-là, on peut le dire d'emblée. Donc, les conséquences risquent d'être vraiment pas très ressenties au niveau de la RDC. Mais toutefois...
Mais est-ce qu'on ne peut pas redouter le fait qu'eux, ils ont un port en eau profonde?
Non, mais je voulais
vous le dire. Vous parlez déjà de 16%.
On aura peut-être l'occasion de discuter de cette histoire des ports en eau profonde, et ainsi de suite. Le port d'Anvers, où j'ai vécu, ce n'est pas un port en mer en eau profonde. C'est un port intérieur. Mais c'est un port qui compte énormément dans l'économie de l'Europe occidentale. Donc, il ne faut pas dire aux gens, il faut assainir. assainir l'environnement économique au Congo, même le port de Matadi tel qu'il est là, nous pourrons tirer plein de choses, plein de bénéfices si fonctionne normalement.
Alors, certains observateurs pensent que c'est une bonne décision dans la mesure où, en fait, toutes ces traversées, c'était pratiquement informel.
Oui, c'est d'ailleurs
là que je voulais insister. C'est le combat aujourd'hui de formaliser l'économie.
Je suis au secteur du développement. L'économie informelle fait vivre de nombreuses familles à Kinshasa. J'ai suivi un commentaire quand on a publié cette nouvelle qu'il faut maintenant un visa pour traverser. Quelqu'un qui disait, de toute façon, nous, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne que les gens qui vont vendre de l'eau et faire la pousse-pousse à Brazzaville. C'est ça qui est méchant de notre part. Il faut les reconnaître, ces gens qui étaient à Brazzaville faisaient vivre des familles ici à Kinshasa. Et cette affaire reste éminemment politique. Ne vous en faites pas, c'est une affaire politique. Les commerçants, les grandes entreprises qui exportent leurs produits vers Congo-Brazzaville, notamment les carburants des CEP qui transitent par CEP, tous ces produits des Marsavco, ça continuera d'une manière ou d'une autre, on ne vous les dira pas. Mais la maman qui vient d'arriver à Matete aujourd'hui avec ses enfants, la maman qui est à Maluku aujourd'hui, qui est en train de souffrir, qui ne sait pas par où commencer, c'est cette maman-là qui était à Brazzaville et qui faisait vivre sa famille parce qu'il trouvait des opportunités là-bas. En fait, le commerce international se développe de cette façon-là. La logique est simple. Quand il n'y a plus d'opportunités au sein d'une économie qui est plus ou moins, qui a atteint ses limites, on essaie de bouger. Même à l'intérieur, on quitte d'une ville vers une autre et si c'est possible, on va vers l'extérieur. C'est dans l'être humain. Le commerce international date de milliers d'années aujourd'hui, donc depuis l'Antiquité, il y a eu des échanges internationaux. Donc, il faut que nous soyons
dépassés les débats. Une chose est vraie que l'économie congolaise, elle est extravertie.
Oui, elle est extravertie, mais imaginez-vous que nous arrivions à exporter les fusques et les mabilés. C'est déjà une bonne chose. Cette maman-là arrive à avoir des devises en exportant les mabilés. Il y a des gens qui ont une licence aujourd'hui, qui ont des doctorats qui n'ont jamais exporté. Et cette maman, qu'est-ce que vous allez
expliquer? Quand tu parles de la Bélé, c'est l'argile, hein?
Oui, oui. Voilà, pour qu'est-ce que vous allez expliquer à cette maman-là qui ne vit que de cette activité-là? Tout économiste le dira, tout le monde se bat aujourd'hui pour encourager ces exportations. Les dumpings et tout le reste, tout le monde vise à exporter. Quand vous avez un marché avec une demande solvable comme Brazzaville, moi, je me dis, c'était une affaire politique et les politiciens congolais.
Nous avons notre ITEX Africa qui n'est plus fonctionnel.
Sur Teski,
c'est vraiment au ralenti.
Oui.
Aujourd'hui, pour les wax anglais et d'autres pannes, sortent, je crois que tout cela ne provient que de Congo-Brazzaville.
Non, pas aujourd'hui, nécessairement. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, rien que pour la région ouest, je ne prends même pas l'ensemble de la RDC, la région ouest, donc Bandundu, Bas-Congo et Kinshasa.
Parce que nous avons des frontières qui sont...
Oui, mais tout ce qui vient de l'extérieur, ça ne passe pas par Congo-Brazzaville. Ouais.
Donc si une frontière a des problèmes, je crois que ce n'est pas l'ensemble du pays.
Si aura
donc c'est
problème,
ça que vous voulez dire.
Ouais. Oui, oui. Mais de toute façon, c'est un problème qu'il ne faut pas négliger. Donc ces mamans-là, aujourd'hui, doivent avoir des assurances du gouvernement, d'avoir des opportunités pratiquement semblables ici au pays. Sinon, il faut arranger ces problèmes pour que ces mamans puissent avoir la possibilité de commercer avec Brazzaville.
Alors, parce que vous avez parlé de l'intégration régionale, de l'intégration économique régionale, aujourd'hui, c'est vrai, pour les cas d'espèce, est-ce que quand il y a, par exemple, un tel, ce genre de conflit sur le plan économique, parce qu'il y aura certainement des conséquences, est-ce que c'est au niveau des organisations, disons, adhérées par la RDC ou le Congo-Brazza, qu'on doit trancher ces problèmes, ou bien il faut une diplomatie entre seulement les deux pays?
Nous sommes tellement proches, pourquoi recourir à tous ces mécanismes?
Oui.
Aujourd'hui, sur le plan international, quand on parle de Kinshasa et de Brazzaville, on considère ça comme une zone unique parfois. On dit carrément la démographie de Kinshasa.
Une zone économique.
Oui, d'ensemble. Mm-hmm. Même sur le plan de la population, on se demande pourquoi il y a si peu d'interactions entre les deux capitales les plus proches du monde. Nous parlons pratiquement les mêmes langues, nous avons les mêmes coutumes, nous avons les mêmes habitudes alimentaires. L'intégration des vrais. Les plus grands problèmes, même dans cette histoire, les auditeurs doivent le savoir, c'est politique. Il y aurait une décision politique forte dès le départ, cette histoire se serait arrêtée ou aurait pu se dérouler de manière... Parce que tout ce que nous condamnons aujourd'hui, c'est la manière. Ce n'est pas la décision en soi. Nous condamnons la manière dont ça s'est passé. Tout ce qu'on a fait à infliger à nos mamans, à nos sœurs, à nos frères, c'est ce qui nous choque le plus. Mais la décision en soi, ça vaut la peine.
Mm-hmm.
Oui, on doit contrôler les flux migratoires dans un pays, entrant comme sortant. Donc, les autorités politiques avaient pleinement le droit. Mais la manière dont ils ont procédé n'a plus à personne.
Voilà.
Un de vos auditeurs parlait sur le plan de droit.
Mm-hmm.
Donc, dans un État civilisé, quand il y a un conflit, tout on recourt au droit. Et ce qu'il faut dire aux gens, l'Ouganda nous a fait la guerre ici à Kisangani. Aujourd'hui, l'Ouganda, tôt ou tard, même après 1000 ans, paiera pour ce qu'il a fait. Donc si nous pensons au droit, si le Congo aujourd'hui est civilisé comme nous l'avons montré durant cet événement, c'est cette logique-là qu'il faut poursuivre jusqu'au bout. Donc, nous allons nous battre sur le plan du droit. Toutes ces personnes qui ont été...
Parmi les recommandations, il y a même la réparation qui est prévue.
Il est prévu,
il y a parmi ces victimes des commerçants qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu, au fait, leur même capital.
Et donc, il faut organiser l'enregistrement de toutes ces personnes-là, leur déclaration, s'il faut constituer cela en plainte. On verra comment constituer. Et c'est ça la nécessité de s'organiser. Il faut organiser cela. Qu'on ait des listes claires, qu'on ait des statistiques sur ce qu'ils avaient là-bas, ce qu'ils ont perdu, ainsi de suite. Nous saurons à un moment ou à un autre comment rentrer dans nos droits.
Voilà, avant de repasser à nouveau au standard, mais on sait tout de même qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est très avantageux pour la RDC, dans la mesure où les biens sortaient. En ce moment-là, nous aurons un stock suffisant au pays, parce qu'on ne va plus exporter vers le Congo-Brazzaville.
Je vous fais une remarque. Très simple à ce moment-là. JR, vous avez une calculette que vous voulez vendre. Vous commencez, vous proposez à des amis, l'un à 20 dollars, l'un discute, s'arrête à 17 dollars, l'autre discute et s'arrête à 14 dollars. Vous vendrez à qui?
À 17?
Bien sûr.
C'est logique.
Les marchés de Brazza et de loin, en tout cas sur le plan de certains produits rentables que les marchés de Kinshasa. Je vous dis qu'on exporte les Mabélé. Et les Mabélé qu'on des riz ici qui passent 3, 4, 5 jours, qu'on n'achète pas. Mais ces mamans-là vont là-bas, parfois elles vont même avec l'air laisser passer le matin, le soir elles reviennent à Kinshasa. Donc c'est un marché, nous devons traiter ces marchés comme tels. Je vous dis que la Zambie, pour elle, aujourd'hui, la RDC fait partie de sa stratégie de développement du commerce international. Donc ce n'est pas parce que c'est un pays africain qu'il faut les négliger.
Voilà. Alors on va repasser à nouveau au standard, et tout en rappelant aux auditeurs qui aimeraient bien participer à ces débats, de composer les 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Affaire des expulsés du Congo-Brazzaville continue à défrayer la chronique. Le Parlement de l'RDC recommande au gouvernement de geler les échanges commerciaux entre les deux capitales. Entre-temps, pour se rendre à Brazzaville, à partir du territoire du Congo-Kinshasa, il faut désormais avoir un visa estampillé dans les passeports, comme si on allait à Paris ou à Bruxelles. C'est la décision des autorités du Congo-Brazzaville. Donc, des part et d'autre, on durcit les tons et d'aucuns redoutent des conséquences économiques. Maître Gaston, vous êtes à Kikwite. Bonjour.
Merci, à vous aussi, bonjour.
Alors, quelles seraient pour vous les conséquences économiques de ces plaidoyers faits par le Parlement congolais et de cette décision prise par les autorités de Congo-Brazza?
Oui, disons que notre gouvernement, normalement, ou soit notre État, la position n'a pas sa raison d'être, à mon avis, parce que le Parlement n'a pas à venir demander, disons, une sanction à l'encontre d'un État qui agit conformément à son droit interne. Et puis moi, je pense que c'est aussi, ça c'est une question du droit international, hein. Ça c'est une question du droit international. Les gels, vous savez, les gels, la Charte des Nations Unies prévoit quand est-ce qu'on peut geler, que ce soit en matière économique, disons, les relations. Et surtout lorsque c'est surtout je dis bien lorsqu'il y a un acte d'agression que l'État peut geler. Et puis voyez-vous que c'est vraiment inconcevable, c'est inconcevable que notre État, parce qu'avec Congo Brazza, on peut parler, à mon avis, disons que ce comportement du Congo Brazza est légal, et puis il y avait un autre comportement qui avait précédé ce comportement que notre Parlement n'avait pas agi. Et vous savez qu'Ondjani, je ne sais pas, Ondjani est mort, il me semble qu'il est mort. Mais Ondjani s'est trouvé là-bas, Mounen aussi. Et on demandait l'extradition de ces deux dangereux.
Oui, maître Gaston, on ne verse pas trop dans la politique, parce que là, aujourd'hui, nous ressortons l'aspect économique. Quelles sont les conséquences? Parce que vous avez dit, c'est vrai, la charte définit un peu dans quelle mesure, dans quelles conditions, dans quelles circonstances on peut proposer les gels. Je crois que c'est quand même parmi des solutions extrêmes. Hein. Donc, même ce que nous appelons les principes de réciprocité, il y a la rupture de relations diplomatiques. En fait, ce sont des solutions extrêmes. Mais dans tous les cas, pour se mettre autour d'une table, quand on s'attend pas, parce qu'on sait que on a enregistré des navettes diplomatiques. Il y a eu deux lettres de président de la République de la RDC adressées à son homologue de la République du Congo par le canal de Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, et même le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, qui avait fait également les déplacements, apportant un message aussi important. Ben alors aujourd'hui, c'est vrai, Congo Brazza durcit les tons. Entre temps, la RDC fait aussi des recommandations en demandant qu'on puisse geler. Alors on sent que les deux parties abondent forcément dans le même sens, de pouvoir geler. Au fait, le fait de durcir les conditions, c'est comme pour permettre que pour empêcher qu'il y ait ces flux migratoires importants. Donc c'est une façon aussi de geler ou de réduire sensiblement les cas de mouvements. Alors comment vous voyez ça, vous personnellement?
Bon, je ne vais pas nager mes réflexions sur les choses qui ne vont pas se réaliser. Mais disons que lorsque nous disons qu'il n'y a même pas raison de croire qu'on peut geler, on ne peut pas prétendre qu'il peut y avoir des conséquences sur le plan économique. Mais j'ai un conseil, à mon avis, à donner à notre État, du tout à notre gouvernement, par rapport aux positions des deux États. Donc, les Brazzavilles, qui, à mon avis, expulse massivement comme ça, c'est que il doit se poser des questions. Comment ces gens-là se rendraient là-bas? Dans la plupart des cas, ce sont les policiers brazzavillois qui, à quelque chose, favorisent que les gens qui ne sont pas en règle avec les droits internes restent là-bas. Et vous chassez maintenant massivement comme ça, ça crée la charge à l'État qui reçoit. Et puis notre État aussi doit faire un effort. Faire un effort parce que c'est nous, si nous ne savons pas qui est congolais, qui ne l'est pas. On ne s'est pas identifié. Et ils ont donné l'exemple d'expulser ceux qui n'ont. Parce qu'il ne faut pas dire aussi que c'est seulement à Paris qu'on peut entrer avec les passeports et les. Non, c'est tout État. Tout État. Lorsqu'on veut voyager dans un autre État, il faut vous munir de votre passeport, votre visa. Ça, c'est la règle d'or. Mais nos gens qui sont en Angola actuellement, la plupart des gens, ce sont des gens qui ne vivent presque pas. Ils sont à tout moment, ils ont peur des policiers. Mais chez nous, ici, lorsque vous partez en ville, vous verrez que non. Yeah, tout le monde peut stationner librement. Donc ce sont des, à mon avis, si on peut d'abord identifier qui est congolais et puis essayer un peu de voir que éduquer des congolais c'est sorte qu'ils respectent. Et puis voilà, je vais dire aussi que il doit y avoir un peu d'humanisme par rapport au traitement qu'on doit infliger à toutes ces personnes là qui sont les migrants économiques. Un peu d'humanisme, s'ils ont acquéri leur bien, lorsqu'ils les refusent, ils les expulsent de l'autre côté. Ils doivent leur laisser aussi le temps de s'éminer, disons, d'avoir leurs moyens de survie, parce que, voyez, comment ils ont perdu leurs moyens de survie, et ça ne va pas. Donc, c'est vraiment un conseil pour tout, parce que nous ne sommes pas seulement au Congo, nous sommes dans tous les pays presque. Donc, si on veut nous refouler, nous faire retourner de l'autre côté, il faut que notre État s'assume, et puis faire de telle sorte qu'ils puissent aussi se comporter comme d'autres États. Donc, tout Congolais doit être identifié et puis n'importe qui entre ici respecte les normes et ce serait un monde de droit. Tout le monde, personne ne peut se plaindre, personne ne peut se plaindre. Merci.
Merci beaucoup Maître Gaston d'avoir appelé les Kikwit dans le Bandundu. On va prendre Franck qui est à Vienne, en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et aussi à tous les amis qui ont déjà émis leur point de vue.
Vous avez la parole Franck.
Oui, merci beaucoup. Je suis en train de vous suivre depuis le début avec attention. Je crois que quand il y a déjà des discordances politiciennes entre deux pays, les conséquences à subir sont multiples et l'économie en fait ou doit en faire partie. Et quand on parle des conséquences économiques par rapport à la situation dont il est question maintenant, on ne doit pas non plus argumenter pour nous faire croire ou bien pour penser que l'économie n'obéit pas aux principes juridiques. Donc, les États de ce monde, les États modernes de ce monde, sont tous soumis aux principes juridiques. Et quand il y a un problème qui se pose, quand il y a un problème qui ne va pas entre les deux États, je crois que l'arbitre dont on se sert, c'est le droit international. Alors, ce droit international prescrit des normes du bon voisinage, et ces normes du bon voisinage dit aussi des attitudes juridiques de réciprocité. Je crois que à ce niveau-là déjà, nous devons nous dire que quand le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant, il faut penser aux conséquences. Les conséquences doivent être juridiques, les conséquences peuvent être économiques, les conséquences peuvent être culturelles. Donc, il y a toute une série de conséquences dont il faut tenir compte quand nous argumentons. Mais ce qui blesse ici, c'est comme si on veut nous faire croire que la partie ouest de la RDC dépend étroitement seulement de Brazzaville. Je crois que c'est quand même trop. Il y a quand même réciprocité au niveau des échanges. Je trouve qu'il n'y a pas que le Congolais de Kinshasa qui profite de ces échanges commerciaux avec Brazzaville. Parce que quand il y a réciprocité, c'est le jeu d'intérêt. Chacun voit qu'est-ce que je gagne à travers ces transactions. Mais le problème qui se pose ici, comme votre invité venait de le dire, c'est d'abord, je crois, un problème éminemment politique. De plus en plus, à suivre les émissions qu'on organise à Kinshasa, à suivre les émissions qu'on organise à Brazzaville, ça devient de plus en plus comme un jeu de ping-pong. Kinshasa dit n'avoir pas été informé de ce refoulement, alors que de l'autre côté d'en face, on dit non, Kinshasa a été prévenu via l'ambassade de la RDC à Brazzaville. Alors, à ce niveau-là déjà, nous qui suivons de loin cette situation, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, mais le problème dont on parle ici, c'est plus de taber sur la véracité, c'est de voir des conséquences. Je crois que, monsieur le journaliste, la dignité des hommes, la dignité de l'homme n'a pas de prix. Je ne sais pas, les compatriotes qui sont là sur place au pays, comment ils sont en train de vivre cette situation. Pour moi, je trouve que ce sont des humiliations qu'on est en train de nous imposer. Alors, nous allons maintenant vraiment accepter de nous mettre à genoux, qu'on viole nos mamans, qu'on nous fasse voir que nous sommes un peuple sans éducation, sans valeur, sans vision, à cause seulement des opportunités du port de pointe noire. Mais est-ce que chez nous ici, on ne peut pas réorganiser l'administration douanière afin de faciliter les transactions internes? La RDC, elle est quand même grosse, avec plus de ces 2 millions de kilomètres carrés. C'est quand même trop qu'on nous fasse croire que si jamais ça ne marchait pas entre ici, ça fait Brazza, ça serait la fin du monde. Que diraient nos compatriotes qui sont vers l'est du Congo? Que diraient les compatriotes qui sont vers Kasumbalesa? Je crois qu'il y a beaucoup de portes d'entrée. On peut bien étudier ce qui est faisable et trouver aussi des solutions, mais qu'on évite d'abord de prendre les pauvres peuples pour bouc émissaire, parce que c'est un problème politique. Les uns disent, nous n'avons pas été informés, les autres disent, on vous a informé. Mais je crois que c'est d'abord, nos autorités doivent d'abord nous dire, est-ce qu'elles ont été informées ou pas? Si elles n'ont pas été informées, c'est alors qu'on pourra penser aux conséquences, aux décisions à prendre. Et ces décisions peuvent avoir des ramifications du point de vue économique, alors là, il faut s'assumer et se réorganiser de l'intérieur. Je crois avoir dit l'essentiel par rapport au sujet de l'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Franck. 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Joël Sikou, vous êtes économiste, voilà. Donc nous parlons des conséquences économiques de cette situation. Comment vous réagissez par rapport à cette deuxième série des auditeurs?
Oui, je reviens d'abord à Franck avant de revenir à Gaston de Kikou, pour revenir à ce que je dis. Donc je n'ai pas dit que les Kinshasa dépendaient essentiellement des Congo-Brazzaville. Qui m'écoute très bien, les statistiques montrent que 65 à 85% des importations de la région ouest de la RDC passent par Matadi. Je voulais déjà réagir à votre interrogation. Donc, il n'y a qu'entre 15 et 20% qui viendraient par Pointe-Noire et, disons, par Brazzaville pour entrer sur le territoire congolais. Malgré cela, il faut chercher dans les relations humaines, même dans les relations économiques, il faut chercher les interdépendances. Donc, il faut chercher le win-win. Donc, si nous pouvons profiter de quelque chose de Brazzaville, si les Congo-Brazza profitent quelque chose de nous, il faut faire un effort pour amplifier cela. Donc, la logique aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui, c'est l'intégration régionale. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. C'est quelque chose que nous devons poursuivre par rapport à tous nos voisins. Nous devons chercher à plus d'intégration entre nous pour que, non seulement au niveau politique, mais au niveau économique, nous ayons des échanges qui profitent à nos populations directement. Je dis l'avantage du commerce, surtout informel aujourd'hui, entre Brazzaville et Kinshasa, c'est que ça profite à une masse de la population qui est peut-être délaissée dans l'évolution, dans la croissance actuelle même du pays, parce que c'est l'économie informelle que nous n'arrivons pas à capter. Tout le monde aujourd'hui est affecté par cette histoire à Kinshasa, parce qu'il y avait un frère qui allait à Brazzaville le matin, qui revenait le soir, il y avait une maman tout le monde, toute famille à Kinshasa est affectée. Vous avez vu aussi les convois qu'on a organisés pour Bandundu et pour le Bakongo. Donc cette région ouest du Congo est vraiment concernée par cette histoire et sera peut-être la plus affectée. Je l'ai même dit. Donc il y a plus d'interactions économiques entre la Zambie et la RDC par Lubumbashi et le Katanga, plus même entre le Rwanda et la RDC par Goma et par d'autres frontières qu'avec Congo-Brazzaville. Ce n'est pas bon. Au contraire, nous devons tout faire. En tant qu'économiste, vous m'avez invité aujourd'hui pour parler d'économie, ce n'est pas pour parler de la politique. Je vous ai dit que d'emblée, il faut tenir en tête que c'est un problème purement politique. Si ce problème avait été bien géré sur le plan politique, on ne parlerait même pas de... Aujourd'hui, est-ce que CEP Congo a intérêt à ce qu'on puisse réduire, disons, le volume de transactions entre la RDC? Non. Combien CEP Congo réalise en faisant passer les carburants consommés à Brazzaville par ses pipelines et par des
tankers? Le Congo-Brazzaville consomme l'électricité de la RDC.
Oui, ils ont construit un barrage à Imbulu. À un certain moment, ils ont voulu faire le gros dossier avec ça. Mais maintenant, on montre que ce barrage n'est pas vraiment aussi performant. Ce qui fait qu'ils commencent aussi ils ont repris l'importation. Non, il faut être fier. Sur le plan économique, c'est pas... Non. Nous ne sommes pas en train de nous battre, nous sommes en train de chercher, c'est du business. Oui. Donc il faut voir, sur le plan économique, voyons cela sur le plan du business. Aujourd'hui ou demain, nous serons obligés de nous entendre et de commercer. Et l'intégration, comme on dit toujours, l'intégration économique précède toujours l'intégration politique. Nos politiciens sont en train de... Ça date de longtemps, depuis l'époque coloniale, les Belges et les Français se sont redoutés. L'époque de Mobutu, on parlait des capitalistes à Kinshasa et des communistes. Ça, sur le plan politique, c'est un problème. Moi, je suis même choqué parce que c'est un problème. Ce sont des tares de la deuxième guerre mondiale, disons, de l'époque coloniale, de la guerre froide, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et nos dirigeants ne veulent pas s'en sortir. Et ils ont quitté déjà ce monde-là depuis longtemps, les Occidentaux qui nous ont imposé cette façon de voir les choses. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas nous en sortir. Les Congolais brazzavillois est plus proche des Kinois que de n'importe quelle autre, disons, nationalité. Rien à dire. Un Congolais de Brazzaville, quand il arrive ici, vous entendez normalement. Vous pouvez vous parler. Les chaînes de télévision suivies ici sont suivies de l'autre côté, ainsi de suite. Donc, que la population puisse garder cela en tête. Nous devons être très exigeants à l'égard de nos politiciens parce qu'ils avaient les devoirs de s'assurer que tout se passe bien, de protéger la population congolaise. C'était à eux, c'est la responsabilité. Il ne faut pas maintenant qu'on puisse faire peser les conséquences à tout le monde. La maman qui ne va plus exporter, je le répète, j'étais à Kikwit, j'ai vu les sacs de millet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout comme les riz, j'aime beaucoup, je croyais que c'était important. Je dis non, on produit ça ici. Je voulais acheter, on me dit non, mais c'était pas parce que c'est pas à Brazzaville. Je dis mais comment ça? Je dis non, tout ce que vous voyez là, tout partait à Brazzaville.
Oui, mais parce que même si vous allez vers Bolobo, je crois que Bolobo, ce sont des riverains, et ils vivent, en tout cas, à longueur de journée, de l'autre côté de la rive.
Il ne faut pas se tromper. Moi, j'ai été à Tchoumbiri, j'avais monté les fleuves du beach ici, vers là-bas. Il y a les marchés. Tout le monde le sait que mercredi, les marchés, c'est en face. Les samedis, les marchés, c'est ici. Et vous voyez avec les décisions que nous allons prendre, ça aura des conséquences à Kinshasa, mais ça n'aura pas de conséquences à Bolobo. Pas à Tchoumbiri. Il ne faut pas rêver. Il faut avoir une vue globale de la situation. Les politiciens se sont mal comportés par rapport à cette histoire. Ils doivent résoudre
ce problème. Voilà. Nous allons repasser à nouveau au standard avec Toto Kani qui est à Kinshasa et Pichou à Kisangani, Jean à Kolozi. Toto Kani, bonjour. Vous avez la parole. Quelles seraient, à votre avis, les conséquences économiques de ces plaidoyers faits par le Parlement de la RDC et de cette décision prise par les autorités de Congo-Brazza? Alors, pour se rendre à Brazzaville, à partir du territoire du Congo-Kinshasa, il faut désormais avoir un visa estampillé.
Oui, merci, Julien. Vous savez, on l'a déjà dit, les relations entre États sont caractérisées par la réciprocité. Disions-nous aussi, d'ailleurs, sur les ondes de la radio de la paix. Cette réciprocité se matérialise par un certain nombre de mesures à prendre en vue de manifester son rejet eu égard à la manière dont un État agit vis-à-vis d'un autre. On dit aux grands mots des grands remèdes. Je refuse que nous soyons des gens à nous mettre toujours à genoux devant les autres, dans les cas d'espèce. Je félicite les législateurs congolais qui ne ménagent aucun effort en faveur de nos compatriotes depuis le début de leur expulsion par nos voisins. Le gel des échanges commerciaux entre les deux capitales est une mesure importante, j'allais même dire sanitaire, car elle repose sur la fermeté, gage nécessaire pour susciter le respect de la part des voisins. Alors, quant à son impact, je le situe à trois niveaux. De un, le niveau psychologique. De deux, le niveau économique et de trois, le niveau politique. Sur le plan psychologique, les Congolais d'une manière générale et les refoulés de Brazzaville particulièrement auront un sentiment de justice eu égard à l'humiliation que nous avons subie. Je ne voudrais pas citer le viol de nos mamans et de nos sœurs, tout ça. Eh bien, sur le plan économique, tous les produits exportés vers Brazzaville, vous l'avez déjà relevé, seront reversés sur le marché de Kinshasa. Et j'estime qu'il y aura abondance de biens et la loi de l'offre et de la demande s'appliquera au grand bénéfice des Kinois. Sur le plan politique, la respectabilité de la RDC se confirme vis-à-vis des Congolais et du monde, car après les émotions, la classe politique congolaise sort de sa réserve et commence à envisager des mesures, je dis bien réfléchies, qui feront douter tous nos voisins sur des positions, des prises de position parfois hâtives à l'encontre de notre pays et de son peuple. Je pense que sur le plan politique, le Congo en sortira à gaillardie. Les négociations et tout ce qu'on veut, l'intégration économique, on veut bien, mais dans le respect mutuel. On ne peut pas accepter qu'on nous humilie en tout moment et que nous soyons là seulement pour tendre la main, demander, je ne sais pas quoi là. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Toto Kani. Vous avez posé également là un problème autour de l'intégration économique qui, au fait, doit passer par certains préalables pour éviter à ce qu'il y ait toujours des conflits dans ce sens. Merci. Pichu, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour les auditeurs de la radio Kapi en général et c'est des paroles auditeurs en particulier. Et juste en rapport avec le sujet du jour, moi j'ai trois petites questions que je vais juste un peu poser. Et la première est celle-ci. S'il faut gérer les échanges commerciaux entre les Congo Brazza et les Congo Kinshasa, quels sont les mécanismes que l'État congolais prévoit garantir la sécurité des Congolais qui sont habitués à ravitailler le Congo Brazza? Et la deuxième des questions, je vais te savoir, à part les Congolais qui sont chassés du Brazza, y a-t-il d'autres étrangers, d'autres nationalités qui sont aussi chassés comme nous les Congolais? Et la troisième question qui est la dernière, en matière des droits congolais, il y a des histoires qu'on appelle l'effet passé qui est permis et utilisé aux pays limitrophes. Et aujourd'hui, les Brazzavillois disent que donc, si les Congolais veulent passer, entrer au Brazza, il faut avoir les passeports. Et cette mesure, n'est-ce une mesure exclusivement rien que pour les Congolais ou bien c'est pour tout le pays du Congo Brazzaville? Parce que nous savons bien que, et aussi en interdisant l'échange commercial, moi je trouve que cela ne pèse pas. Un problème politique doit avoir une solution politique. Les Congolais devaient seulement appliquer la politique de réciprocité en relation internationale. Ça allait, on devait chasser les Brazzavillois comme ils l'ont fait. Là, ils allaient voir la valeur des Congolais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pichu, pour votre gouverne, Pichu. Le laissez-passer habituel est utilisé depuis la fin de la colonisation. Alors, je crois que ça peut vous permettre de vous faire une idée par rapport à ça. Jean, vous êtes à Colosie. Bonjour, Jean.
Bonjour monsieur, c'est Jean Dambo, bien sûr, je suis ici à Colosie. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, moi je crois que les conséquences liées à cette situation sont nombreuses, qu'on ne peut pas énumérer le tout ici, mais le peuple congolais ainsi que toutes les autorités congolaises doivent comprendre avec moi en passant par un adage qui dit « c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui détermine en grande partie notre avenir ». Donc, les gens doivent comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, ce que les Congo d'en face viennent de faire à nous, les Congolais d'ici, doivent nous interpeller. Pourquoi je dis ceci? Parce que chaque fois, quand il y a des situations où, par exemple, nos frères qui étaient auparavant au Congo Brazza, qui se retrouvent aujourd'hui ici, la manière dont ils sont en train de vivre n'est pas correcte. Donc, les autorités congolaises ne doivent pas rester, c'est comme s'ils sont en sommeil, ils doivent se lever et chercher des voies et moyens pour voir comment remédier la situation. Parce que tout le monde me semble ignorer qu'il y a fort longtemps, nous, la RDC et le Congo Brazza, nous sommes pays amis, nous collaborons, tout d'un coup, là, subitement, les relations sont arrêtées. Donc moi, j'interpelle nos autorités, qu'ils s'intéressent, donc nos autorités plutôt puissent s'intéresser à cette situation afin de trouver une situation valable qui pourra mettre la population ainsi que tout ses biens en sécurité. Voilà ce que je voudrais contribuer pour cette.
Merci beaucoup Jean Dambosche. Pour vous, c'est un problème politique, il faut une réponse politique. Voilà, on verra ça avec notre invité 081 890 63 15.
Vivez deux jours d'exception au rythme du jazz à Kinshasa, les 31 mai et 1er juin au Théâtre de Verdure avec la 8e édition du festival Jazzkiff. À cette occasion, nous célébrerons tous ensemble les 20 ans de carrière de Lokua Kanza et fêterons le jazz avec aussi Richard Bonnard, Jean Gobal, Sarah Tavares et bien d'autres. Des concerts à retrouver prochainement sur Radio Capi. Pour toute réservation de billets à ce festival, appelez le 081 059 98 88 ou allez sur www.jazzkiff.com.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. Nous avons dans ce studio Joël Sikou, économiste et assistant à la faculté de l'économie à l'Université catholique du Congo. Monsieur Joël, c'est vrai, nous avons suivi cette longue série des auditeurs. Et bien, nous retenons quand même qu'il y a un auditeur qui a insisté sur la réponse qui doit être politique, parce que c'est un problème politique. Mais on sait tout de même que tout le monde redoute en fait les conséquences économiques. Alors comment la réponse peut être politique et au même moment résoudre le problème et les conséquences qui peuvent être aussi économiques?
Bon, je ne suis pas politicien, mais la politique nous gouverne, donc nous sommes tous impliqués d'une façon ou d'une autre. Donc ce sont des stratèges au niveau des cabinets politiques ou des ministères qui doivent prévoir ou prévenir ces genres de situations. Ce sont des choses qui sont... Ce n'est pas la première fois, donc nous sommes tous sous cette menace-là. La situation qui s'est passée à Bangui, qui a été plus ou moins bien gérée par le gouvernement congolais en réussissant à faire revenir nos frères par des moyens assez coûteux. Donc ce sont des choses qui, normalement, doivent être... On doit avoir des cellules qui prévoient ce genre de choses. Cela me pousse à parler d'autre chose. Aujourd'hui, quelle est l'étude qui a été publiée entre l'université Marien Ngouabi et l'université de Kinshasa, par exemple? La société civile, elle est... muette par rapport à cette situation. Les églises, les associations, les scientifiques ne disent rien par rapport à ce qui est en train de se passer. On a laissé les débats entre les mains de qui? Des gens qui postent à la télé, qui injurient, des gens qui disent n'importe quoi et qui ne réfléchissent pas sur le fond du problème. Je le répète et je le dis, nous sommes voisins naturels. Nous serons obligés de vivre ensemble, que nous le voulions ou pas. Le plus important, c'est de passer rapidement, de sortir rapidement de cette crise. Et cette crise nous donne l'opportunité de réfléchir profondément sur l'avenir de nos relations, sur les plans économiques, socio-culturels et politiques. Nous sommes des partenaires, nous avons peut-être des candidatures au niveau international. Est-ce que le Congo Brazzaville ne pourra pas nous appuyer pour ça? Nous voulons organiser la Coupe d'Afrique ici. Tout ça, nous devons voir cela. Nous devons avoir une stratégie de tirer profit de ces voisins que nous avons, avec qui nous partageons tant de choses. Donc aujourd'hui, les intellectuels doivent s'impliquer dans ces débats, les professeurs de l'UNIKIN doivent s'exprimer, l'Église catholique doit s'exprimer, et de Brazzaville et de Kinshasa doivent s'exprimer sur cette situation, dire aux gens ce qui se passe là, c'est politique. Il ne faut pas trop intégrer la population dans cette histoire, et les politiciens doivent régler leurs histoires et prendre soin de leur population. Si la population s'est retrouvée là-bas par nécessité et qu'aujourd'hui elle doit revenir à Kinshasa, il faut prendre des dispositions pour la recevoir. Un auditeur a parlé d'alternatives. Quelles sont les alternatives que le gouvernement donne aux gens qui arrivent? Je suivais justement sur Radio Capi.
Oui, parce que la plupart, ce sont des commerçants, des gens qui avaient une vie...
Elle arrive pourtant des Maloukou, elle fait les Malewa. Donc cette maman, ça signifie que sa spécialité, c'est les Malewa. Elle n'est peut-être pas allée aux études, mais elle sait les faire. Si les gens achètent, c'est parce qu'elle les fait bien. Est-ce qu'il y a la possibilité de les faire aujourd'hui? À Kinshasa, on chasse les mamans des Malewa. Ici au centre-ville. Qu'est-ce qu'on leur a donné comme alternative? Peut-être qu'à Brazzaville, elle avait un restaurant. Il faut penser à tout ça.
La réinsertion, ça poserait énormément de problèmes.
Oui, et moi je pense que pas seulement en termes de réinsertion.
Un filet de sécurité.
Pas seulement en termes de réinsertion, mais en termes de retour, si il le faut. Pourquoi c'est que Brazzaville ne peut pas imposer une carte de vendeuse de Malais ou ainsi de suite à Brazzaville? Cette maman-là pourrait payer. Et le gouvernement de Congo-Brazzaville pourra en profiter. Tous les gens qui mangent à 12 heures chez sa petite maman là et qui aujourd'hui ne peuvent pas manger. Parce que l'économie, il ne faut pas avoir seulement les producteurs qui profitent, non. Les consommateurs aussi, par l'utilité qu'ils tirent du bien qu'ils ont de consommer, en tirent quelque chose, une satisfaction. Donc toutes ces personnes qui avaient des garagistes, qui avaient des gens qui leur apportaient de l'eau, qui n'accèdent plus à ça aujourd'hui, souffrent. Il faut voir tout ça. Donc je reste sur le plan économique pour dire aux intellectuels, à l'église, des fois, ils doivent s'impliquer pour dire que c'est dans notre intérêt à nous tous, surtout Kinois et Brazzaville, de nous entendre, d'échanger et de communiquer.
Voilà. Voilà, alors on va prendre le tout dernier auditeur, Dadi, qui est à Kinshasa. Dadi, bonjour.
Oui, bonjour.
Dadi, vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute.
Voilà, vous avez la parole, Dadi.
Oui, merci pour m'avoir accordé la parole. Je dirais, si les plans politiques, cette décision de notre Parlement est quand même sanitaire. Mais moi, je dirais, économiquement parlant, si le plan économique... Vous ne voyez pas que c'est les Congo-Brazzaville qui s'est autogélé et qui s'est auto-sanctionné économiquement, parce que vous êtes sans ignorer que la plupart, près de 100 000 Congolais qui sont expulsés du Congo-Brazzaville, ce sont ceux qui aussi contribuent énormément pour l'économie brazzaville. Dans les marchés, dans les marchés, ce sont ces Congolais-là qui contribuaient beaucoup, ce sont ces Congolais-là qui contribuaient. Et puis, dans les transports, mais peut-être votre correspondant en parle, les médias.
Voilà, Dadi, on a du mal vraiment à comprendre quand vous parlez, parce que là, vous sortez non seulement très coupé, mais la communication est vraiment de mauvaise qualité, on ne sait pas, vous gardez le plus longtemps en onde. Voilà, on va prendre Raphaël qui est à Lubumbashi. Raphaël, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à notre invité, c'est Raphaël Tumunga, Lubumbashi.
Voilà, vous avez la parole, Raphaël.
Oui, lorsque j'ai compris cette information pour la décision que le gouvernement du Congo-Brazzaville a prise concernant l'identification des entrées, des étrangers dans leur pays, j'ai dit Dieu merci du fait que c'est une leçon à prendre à notre pays, dans la mesure où la RD Congo est caractérisée par le laisser aller et le laisser faire. On ne sait pas identifier qui entre et qui sort. À la mesure où, par exemple, j'ai des amis ici à Lubumbashi, il y a l'un qui est tanzanien et l'autre qui est ivoirienne. Mais parmi les deux, il y a l'une qui n'a pas de documents ou de notifications qui la permettent d'être ici en RDC. Elle est là de manière frauduleuse. Mais si le Congo était un État civil, les autorités pouvaient arriver à découvrir cette dame. Voyez ce que ça fait. Et cette idée ou ce système de laisser aller le système est maintenant vacciné au chef des citoyens congolais. Lorsque les Congolais se retrouvent dans un autre État, et ils arrivent à penser que ce système de laisser aller le système est aussi dans d'autres pays. C'est pourquoi, partout où il y a des Congolais dans les différents pays, il y a toujours des problèmes. Si nous disons aujourd'hui que nous puissions mettre des barrières entre certains États ou certains pays, je dois voir que cela va créer le sous-développement dans notre pays. Par exemple, sur le plan électrique, aujourd'hui la RDC arrive à fournir du courant, mais nous n'avons pas de machines pour former, produire cette électricité dans la mesure, comme je dis par exemple à Lubumbashi. Nous fournissons de l'électricité, mais nous envoyons à Zambie pour que Zambie puisse nous retourner. Vous voyez qu'il y a des problèmes. Voilà. Si maintenant nous prenons une décision pour mettre des barrières entre la RDC et la Zambie.
Conséquence. Merci beaucoup, Raphaël. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va conclure avec vous, Joël Sikou. Vous êtes économiste, vous avez suivi les uns et les autres, beaucoup d'opinions et puis des appréhensions et beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à ce qui va arriver, hein, par rapport à cette situation. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, ce qu'on peut retenir, ce qui est arrivé est tout à fait normal. Vous avez suivi au Vietnam, il y a le même problème. En Chine, il y a eu le même problème entre les ressortissants chinois et les Japonais. De temps en temps, les hommes politiques ont parfois tendance à utiliser ce genre de situations pour gérer certaines situations intérieures. Vous voyez, quand l'eau est sous pression pour bouillir, parfois quand vous soulevez le couvercle, la pression baisse un peu. Et en politique, ce sont des choses qu'on utilise parfois. On cristallise un mal, on attire l'attention de la population vers ce mal-là pour la détourner des vrais problèmes qui se posent. Je ne vais pas entrer en détail, parce que vous aurez d'autres émissions
oui.
qui pourront...
La politique, voilà. oui.
Donc, cette situation est éminemment politique. Ça a été utilisé par les autorités brazzavilloises et la manière dont les autorités congolaises gèrent le Congo des RDC, donc gèrent cette situation, montre aussi que c'est vraiment...
Mais aujourd'hui, nous redoutons les conséquences économiques.
Oui et non. Oui et non. Parce que les gens, par exemple, pour Seb ou pour Silou,
j'ai ça manque à gagner.
Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Donc, il ne faut pas leurrer les gens. Vous faites une déclaration, il a donné des bonnes recommandations, des recommandations que nous savons qui resteront lettres mortes. Parce que les intérêts sont tellement grands que ces gens ne se laisseront pas faire pour une affaire purement politique comme cela. Les gens qui souffrent le plus, c'est les petits peuples, toutes ces familles qui doivent survivre à 15, à 20 dans une petite maison parce qu'il y a des membres qui ont été refoulés des Congo-Brazzaville.
Joël Sikou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes économiste et vous enseignez à l'Université catholique du Congo. Merci et à très bientôt. Merci.
Allô? Mais, il ne répond pas?
Un autre débat, c'est demain, mais d'ici là, portez-vous bien. Nous disons merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de cette émission. Noël Alouzi, tu l'as réalisé. Et Jir Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Nicole Langaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net.